Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour méditer sur les versets 1 à 5 de la sainte sourate Qadr. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر
بسم الله وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ سلام هي حتى مطلع الفجر ورق الله العلي العظيم.
Oui, nous avons fait descendre ceci, la nuit de la détermination. Et qui te dira ce qu'est la nuit de la détermination? La nuit de la détermination est meilleure que 1000 mois. Durant celle-ci descendent les anges, ainsi que l'esprit, par permission de leur Seigneur. Avec chaque commandement, une paix. Cela jusqu'à l'apparition de l'aube.
Thank you. Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Nous sommes le samedi 1er Azar 1399 du calendrier iranien, 21 novembre 2020. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre bulletin d'information qui sera suivi d'un commentaire politique. Les États-Unis n'ont pas le droit de parler des problèmes de non-prolifération, a déclaré le représentant permanent de l'Iran auprès des organisations internationales à Vienne. Covid-19. L'Iran impose des restrictions draconiennes dans de nombreuses zones du pays. L'accord nucléaire. Téhéran dénonce la fuite en avant du trio européen. Et le navire collecteur de renseignements Shiraz rejoindra la marine iranienne. C'étaient les principaux titres de l'actualité. Voici le journal. L'Iran a imposé de nouvelles restrictions à travers tout le pays pour aider à endiguer la propagation du coronavirus. Les nouvelles restrictions sont imposées dans la capitale Téhéran et dans d'autres villes du pays et dureraient 2 semaines. Pendant le verrouillage partiel, les commerces et services non essentiels seront fermés et les voitures ne seront pas autorisées à quitter ou à entrer dans ces villes. De plus, les véhicules ne seront pas autorisés à circuler dans les rues de 21h à 4h du matin. Les contrevenants recevront de lourdes amendes. Pendant ce temps, le président iranien Hassan Rouhani a exhorté les citoyens à éviter les rassemblements familiaux et sociaux et à appliquer strictement les protocoles et les restrictions sanitaires pour aider à contenir la maladie. La République islamique d'Iran a condamné comme irresponsable la récente déclaration du Royaume-Uni, de l'Allemagne et de la France, remettant en question les engagements de Téhéran dans le cadre de l'accord nucléaire de 2015. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a appelé les 3 signataires européens de l'accord à mettre en œuvre leurs propres engagements au lieu de s'engager dans une fuite en avant politique. Saïd Khatibzadeh a souligné que les activités nucléaires de l'Iran étaient légitimes et menées dans le cadre de ses droits indéniables. Il a souligné que la réduction par l'Iran de ses engagements dans le cadre de l'accord nucléaire était conforme au contenu de l'accord. M. Khatibzadeh a ajouté que l'Iran avait suspendu ses engagements après que les États-Unis se soient retirés de l'accord et réimposé les sanctions contre l'Iran. Il a indiqué que l'Union européenne avait également manqué à ses obligations en ce qui concerne la levée des interdictions et la garantie que Téhéran bénéficie des avantages économiques de l'accord. Ces déclarations interviennent en réaction à une récente déclaration du trio européen exhortant Téhéran à respecter toutes ses obligations au regard du plan global d'action conjoint ainsi que le traité de non-prolifération. Le secrétaire d'État américain, Mike Pompeo, a répété les menaces de Washington contre l'Iran, affirmant que toutes les options restaient sur la table contre la République islamique d'Iran. Mike Pompeo a déclaré que c'était la politique des États-Unis au cours des 4 dernières années et qu'il n'y avait aucune raison pour que cela change. L'Iran a affirmé que le secrétaire d'État américain, Mike Pompeo, subordonnait les intérêts du peuple américain à ceux du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Dans un tweet, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a fortement critiqué la doctrine du secrétaire d'État américain. Il a noté que Pompeo officialise également l'occupation israélienne de la terre palestinienne et blanchit les crimes d'Israël en toutes circonstances. Le navire collecteur de renseignements Shiraz, qui a des capacités spéciales et ultramodernes dans la guerre électronique, rejoindra la flotte de la marine iranienne d'ici l'année prochaine, a déclaré le commandant de la marine de la République islamique d'Iran. Expliquant le dernier état d'avancement du projet de la construction du navire collecteur de renseignements Shiraz de la marine iranienne, le vice-amiral Hossein Khanzadi a déclaré « La construction de ce nouveau navire, qui a des caractéristiques spéciales, est terminée et nous équipons actuellement ces systèmes électroniques. Nous prévoyons d'ajouter ce nouveau navire à la marine d'ici l'année prochaine. » Le navire collecteur de renseignements Shiraz possède les capacités nécessaires dans le domaine de la détection radar, des télécommunications, du sonar et de la gestion de diverses émissions dans la guerre électromagnétique, des capacités telles que l'identification de la bande de fréquence, l'identification de différents paramètres des ondes radar et radio, l'identification des systèmes de télécommunication de l'ennemi sont prévues dans ce navire ultramoderne. Au moins 8 personnes ont été tuées samedi par des roquettes qui se sont abattues sur le centre de Kaboul, près de la zone verte où se trouvent l'ambassade et compagnie internationale, ont indiqué des sources gouvernementales afghanes. Les terroristes ont tiré 23 roquettes sur la ville de Kaboul. Selon les informations initiales, 8 personnes ont été tuées et 31 autres blessées, a déclaré le porte-parole du ministère afghan de l'Intérieur. L'ambassade iranienne a annoncé sur Twitter que son bâtiment principal avait été endommagé par les fragments de roquettes, mais qu'aucun de ses employés n'a été blessé. Les explosions se sont produites dans des zones densément peuplées, notamment à proximité de la zone verte centrale et dans un quartier du nord. Aucune revendication n'a pour l'heure été émise, mais des responsables du gouvernement afghan ont accusé les talibans. Le porte-parole des talibans a cependant déclaré que l'attaque n'avait rien à voir avec le groupe. Et enfin, le Yémen est maintenant en danger imminent de la pire famine que le monde ait connue depuis des décennies, a alerté vendredi le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Dans son communiqué, M. Guterres a averti que des millions de vies pourraient être perdues si aucune action immédiate n'était prise dans le pays. L'ONU a déjà décrit le Yémen comme la plus grande crise humanitaire au monde, 80% de la population ayant besoin d'aide. L'Arabie saoudite a lancé une attaque dévastatrice contre le Yémen en 2015. Des mois après le début de la guerre, Riyad a imposé un blocus terrestre, aérien et naval au Yémen. Les restrictions ont privé des millions de Yéménites de nourriture et de carburant indispensables. Le conflit a fait des ravages sur les infrastructures du pays, détruisant les hôpitaux, les écoles et les usines. Le représentant permanent de l'Iran auprès des organisations internationales à Vienne a déclaré que les États-Unis, qui possédaient des milliers d'ogives nucléaires et étaient le seul pays à avoir utilisé des armes atomiques, ne sont pas en mesure de parler des problèmes de non-prolifération. Kazem Gharibabadi a fait ses remarques dans une allocution jeudi au Conseil des gouverneurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique, IAEA, en réponse aux allégations de la délégation américaine auprès de l'agence, selon laquelle l'Iran devrait être exposé à des normes de vérification solides et sévères. Les États-Unis ne peuvent pas être considérés comme honnêtes dans leurs affirmations concernant la non-prolifération, alors qu'ils ont eux-mêmes des milliers d'ogives nucléaires, ont fait proliférer de telles armes et le savoir-faire annexe, les ont utilisées contre un État non doté d'armes nucléaires et menacent les autres avec l'utilisation de ces armes contre eux. En effet, un tel pays n'a même pas le droit de parler de problème de non-prolifération, a déclaré le représentant iranien. M. Gharibabadi a ajouté, dans le même ordre d'idées, le régime israélien est le seul au Moyen-Orient qui n'est membre d'aucun des instruments de contrôle d'armes de destruction massive et a développé divers types de telles armes. Dans quelle mesure les États-Unis sont-ils préoccupés par cette situation menaçante, a-t-il ajouté. Il a noté que les responsables de l'Agence nucléaire des Nations Unies, y compris son défunt directeur général Yukiya Amano, ont affirmé que l'accord nucléaire conclu entre l'Iran et les six puissances mondiales en 2015 constituait un modèle exemplaire pour le régime de vérification, qui, espérons-le, sera mise en œuvre dans d'autres pays membres de l'agence. Le représentant de l'Iran auprès des organisations internationales à Vienne a ajouté « Bien que l'administration américaine n'ait pas complètement respecté ses obligations, la situation s'est aggravée lorsque l'administration américaine a annoncé son retrait unilatéral du plan global d'action conjoint le 8 mai 2018. » Cette même annonce est la suite des mesures coercitives prises par l'administration Trump et le manque de mise en œuvre pleine et efficace des engagements des membres de l'Union européenne pour remédier à la situation ont posé de sérieux défis à l'accord. M. Gharibabadi a ensuite reproché aux membres européens du plan global d'action conjoint de ne pas avoir respecté leurs engagements après le retrait de Washington de l'accord. Il a déclaré « Malheureusement, l'Union européenne n'a pas respecté ses engagements en matière de sanctions et ses engagements liés au nucléaire civil. Coopération avec l'Iran non plus. Par conséquent, appeler l'Iran à honorer pleinement ses engagements tout en sachant que les avantages légitimes pour l'Iran ne se sont pas concrétisés n'est ni raisonnable, ni une approche pratique.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission Le Débat. Dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui, nous allons revenir sur ce qui vient de se produire ces derniers jours dans la région du Sahara occidental, surtout entre le Maroc et le Front Polisario. Et en fait, on va revenir sur cet événement et le Sahara occidental qui est en fait désormais l'objet, si vous voulez, d'un foyer de tension, plutôt pour être précis, d'un regain de tension. Et cela intervient à un moment où L'autre pays de la région, près de l'Algérie, a lancé par la voix des chefs d'état-major de l'armée nationale algérienne une mise en garde. Le chef d'état-major de l'armée algérienne qui a appelé en fait les soldats à se tenir prêts pour parer à toute éventualité. Je cite là le chef d'état-major de l'armée algérienne. Aujourd'hui, je compte sur tout le monde, chacun dans son poste, du simple soldat au plus haut gradé pour une mission noble, celle de la défense de nos frontières contre le terrorisme, contre les trafiquants et même contre cet ennemi, un ennemi en fait des classiques. Et toujours, s'agissant de ce regain de tension dans la région, il y a eu surtout cet article publié par le site d'information Algérie Patriotique qui cite en fait un journaliste exilé à Londres, Saïd Ben Zedira, qui fait état de l'arrestation de 25 ressortissants algériens qui avaient été déguisés, si vous voulez, en forces militaires pour en fait les filmer et les montrer comme en fait les éléments de l'armée algérienne pour en fait intensifier de plus ce regain de tension. Et Algérie Patriotique fait état d'un complot ourdi, toujours selon ce site d'information, ourdi par d'autres pays, les Émirats arabes unis, le régime israélien contre l'Algérie. Pour vous en parler, j'ai le plaisir d'avoir avec moi pour cette émission deux invités. J'ai avec moi pour cette émission depuis Toulouse un spécialiste français des questions internationales, M. Pierre Dortiguier. M. Dortiguier, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour cher M. Navrostine, bonjour à tous vos auditeurs et à votre invité.
Et l'autre invité de l'émission d'aujourd'hui, c'est M. Dortiguier, c'est un analyste politique et spécialiste des questions internationales qui est avec moi depuis Paris. Il s'agit de M. Imadeddin Ambrouni. M. Ambrouni, bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour à vous et bonjour à votre invité, à tous nos auditeurs. Merci.
Monsieur Ambrouni, on va commencer avec vous et l'émission d'aujourd'hui. Je viens de lancer le sujet. Quelle évaluation portez-vous sur ce qui se passe actuellement dans le Sahara occidental entre le Front Polisario, le Maroc et cette mise en garde, et surtout lancée par l'Algérie, Monsieur Ambrouni?
Oui, il faut d'abord peut-être pour nos téléspectateurs parler de ce que c'est le Sahara occidental et le conflit. C'est un conflit de 45 ans et de guerre, de négociation, et on voit qu'il est toujours au point mort. Le Sahara occidental, en fait, c'est une ancienne colonie espagnole qui s'étend à peu près de 270 000 km et peuplée de 500 000 habitants. Et essentiellement, elle était contrôlée donc par les Espagnols. Et dans les années 70, les Espagnols sont partis. Il y avait eu des négociations avec les Mauritaniens, avec les Marocains. Le Front de Polisario qui combattait les Espagnols, c'est-à-dire ce front qui représente le peuple sahraoui. Et après cet accord entre Espagnols, Marocains et Mauritaniens, on a vu que le Maroc il est entré plus ou moins en guerre avec le front de Polisario, et depuis cette date jusqu'à 1991, on va voir des guerres d'ici et là, et en 91, donc depuis à peu près 20 ans maintenant, il y a eu un cessez-le-feu, un accord de cessez-le-feu. Et malheureusement, aujourd'hui, on s'aperçoit que pour des raisons géopolitiques, pour des raisons à nuire peut-être pour l'Algérie et même pour le Maroc, il y a malheureusement un problème sur les frontières entre le Maroc et donc cette partie négociée des fronts Polisario. On voit que les tensions, elles sont là. On voit que les responsables, en tout cas du front de Polisario, ils ont annoncé que le cessez-le-feu n'est plus là, et donc on est dans une situation de conflit. C'est pour cette raison le commandant, le chef commandant de l'armée donc algérienne, il donne un discours très ferme pour le Maroc, mais surtout pour ceux qui veulent s'ingérer dans ce problème politique frontalier entre le Maroc, l'Algérie et le Front de Polisario. Donc c'est un vrai sujet. Malheureusement, depuis 50 ans presque, on n'a pas trouvé de solution. Le Maroc campe sur ses positions, le Front Polisario campe aussi sur ses positions. Il y a beaucoup de réfugiés qui sont en Algérie, à peu près 200 000 réfugiés sahraouis qui se trouvent à Tindouf. Donc vraiment, c'est un problème humain et c'est un problème géopolitique, en fait.
Monsieur Tortiguet, vous venez d'entendre les explications de monsieur Imbruni. Monsieur Tortiguet, pensez-vous qu'il y a une volonté d'embraser cette région, si vous voulez, d'attiser le feu de tension dans cette région du monde entre le Sahara occidental, le Maroc, l'Algérie? Est-ce de votre avis, monsieur Tortiguet?
Oui, en effet, en remerciant M. Imbruni de son exposé, qui me semble très juste, très clair, ayant connu justement, soit par M. Ahmed Rami, soit qui est marocain, soit par des Algériens, des Espagnols aussi, ayant connu, un peu la situation, de cette dramatique de cette région, il est un fait évident. C'est que, pareil, situation aujourd'hui ne peut durer que parce que des intérêts très, très importants sont en jeu. Ces intérêts visent, à notre avis, deux objectifs: maintenir un minimum d'hostilité entre l'Algérie et le Maroc, et par là même empêcher toute constitution, par exemple, que l'on pourrait envisager, ou fédérale ou autre chose, qui serait une sorte d'unité maghrébine, si vous voulez. Et ça, c'est un point. Et cette situation ne peut durer que parce qu'il y a un approvisionnement d'armes, il y a des formations de cadres, il y a, des formations de cadres qui impliquent de l'armement, qui impliquent des instructions. M. Imbruni a très bien dit que cela a duré depuis déjà une quarantaine d'années. Nous avions un cessez-le-feu depuis 1991. Mais là, même... Peut-on dire les prétextes d'enflammer cette région sont toujours très minces. Il s'est agi dernièrement, récemment, donc, si vous en parliez, d'une opération qui a été contrariée par le Front Polisario, c'est-à-dire l'opération marocaine de dégagement d'une route vers la Mauritanie. Donc on peut toujours trouver, des prétextes. Je crois qu'il y a une inconscience, en tout cas, ou un manque d'élévation, si vous voulez, politique, entre les partis. Les partis ne comprennent pas, c'est mon opinion de français, mais enfin, opinion, peut-on dire, philosophique, les partis ne comprennent pas qu'ils sont joués, c'est-à-dire qu'aucun ne peut tirer un avantage pour lui-même. Mais, les partis étrangers, que ce soit l'entité sioniste, évidemment, que ce soit des partis comme la France, hein, d'autres partis qui ont toujours eu la main sur le Maghreb, ont intérêt justement à ce qu'il y ait une sorte de rivalité permanente dont les causes premières, finalement, disparaissent. Qu'est-ce que l'on voit? On voit des morts, simplement, un désir de vengeance. On voit une sorte de, d'ennemi héréditaire. Or, il semble quand même que, c'est mon avis, mais je ne veux choquer personne, mais il semble quand même que la position marocaine, indépendamment de la nature du régime marocain, de ses dirigeants, etc., mais nous parlons en géopolitique, il est certain que cette région du Sahara espagnol, je reprends l'ancien terme, est un prolongement du Maroc, évidemment. C'est sur la voie du Maroc à la Mauritanie. Un enfant le voit sur une carte. Mais disons que les hommes qui dirigent, comme par exemple on a incriminé les services secrets, les services spéciaux, si vous voulez, algériens, dans la formation des cadres, Polisario. Bon, il est certain que cela est vrai. Mais je dois dire qu'il manque dans cette affaire-là un recul politique et surtout, ce sera mon dernier mot, une élévation de vie politique. C'est-à-dire, les gens, en fait, c'est une affaire de corruption aussi, vous voyez. Certainement que des groupes étrangers promettent aux États en question, à savoir le Maroc et l'Algérie, des bénéfices, certainement des bénéfices particuliers ou privés, ceci n'est pas exclu, voyez-vous, moyennant, disons, la continuité ou la, de cet état de fait, guerrier, c'est absurde. Il ne peut pas y avoir une affaire de 40 ans qui dure ainsi. C'est incroyable. C'est vraiment, disons, défier le bon sens. Et je crois que ceux, malheureusement, qui dirigent les opérations savent très bien ce qu'ils font, c'est-à-dire vouloir diviser le Maghreb, instaurer des inimitiés continuelles, voyez-vous, pour pouvoir obéir à la fameuse formule impérialiste que vous connaissez, diviser pour régner.
Monsieur de Imbruni, est-ce que vous aussi vous pensez que des parties étrangères, de le point auquel a fait allusion M. de Dortiguet tout à l'heure, ont intérêt d'attiser le feu de cette rivalité, pour reprendre l'expression de M. Dortiguet, ou bien pour faire perdurer cette situation de conflit, pour reprendre votre propre expression, M. Imbruni?
En fait, c'est un problème réel, c'est-à-dire est-ce qu'on peut donner l'autodétermination au peuple sahraoui ou pas? Donc c'est ça la question principale. Aujourd'hui, le Maroc s'oppose. Le Maroc veut donner de l'autodétermination, mais il faut que cette région reste sous sa souveraineté. Historiquement, comme il a dit M. Dortiguet, c'est un prolongement marocain, mais la Mauritanie aussi, c'est un prolongement du Maroc. Il n'y avait pas un pays qui s'appelle la Mauritanie, mais la géopolitique fait que la Mauritanie existe. Donc le peuple sahraoui, il existe, il est là, il a sa culture, il a chez soi. Il se trouve que l'Algérie, pour des raisons humaines, mais aussi pour des raisons stratégiques, pour une ouverture vers l'Atlantique, donc elle a soutenu le Front Polisario, soutenu militairement, soutenu politiquement. De l'autre côté, le Maroc est soutenu par l'Union européenne, soutenu par la France. Et on voit que du côté de l'Union africaine, parce que c'est ça qui est important, on voit l'absence en fait politique de l'Union africaine dans cette affaire. Et on voit que le Maroc a des appuis européens, américains, parfois même allemands. Donc on voit que l'affaire, c'est une affaire régionale, mais elle est devenue internationale. Donc il faut espérer que l'ONU reprenne en main la question et trouver une solution négociée. On ne peut pas trouver une solution par la voie de la guerre. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de changements. Le changement politique algérien à l'intérieur, le changement de les relations extérieures de l'Algérie. Aujourd'hui, l'Algérie tend vers une relation stratégique avec la Russie et une relations stratégiques économiques avec la Chine, et ça, donc l'Union européenne et surtout la France s'opposent énormément. Aussi, il y a les États-Unis et l'entité sioniste dans leur plan de normalisation arabe entre les gouvernements arabes et l'État sioniste. Ils font la pression sur le Maroc, donc c'est une guerre en fait qui a trois faces. La face régionale réelle, donc il faut trouver une solution pour ce peuple qui souffre depuis un demi-siècle. Une face géopolitique qui se joue contre l'Algérie, donc on veut faire la pression contre l'Algérie. On ne veut pas que l'Algérie soit plus influente dans la région. On ne veut pas que l'Algérie soit plus indépendante vis-à-vis de l'Union européenne, surtout. Et donc on va créer cette guerre s'ils arrivent à la créer, en fait. Et aussi, pour faire pression sur le Maroc, pour qu'il normalise officiellement les relations diplomatiques avec l'entité sioniste.
Monsieur de Dortiguet, Monsieur Imbruni vient de le dire,
oui.
Sur le plan de la politique étrangère, l'Algérie s'oriente vers des pays comme la Russie et la Chine,
oui.
Une politique qui ne plaît pas quand même à certains pays, selon l'expression de Monsieur Imbruni, et l'armée algérienne, Monsieur de Dortiguet, est désormais en état d'alerte maximale sur tous les fronts, Monsieur Dortiguet, et si vous voulez, mise en garde du chef d'état-major de l'armée algérienne, également cette situation d'alerte maximale de l'armée sur tous les fronts, intervient à un moment où, en fait, l'Algérie est confrontée à pas mal de problèmes sur toutes ces frontières, M. Dortiguet. À la frontière Est, c'est la Libye et ce qui se passe en Libye. À la frontière US, il y a en fait ces groupes armés qui opèrent, si vous voulez, dans le nord du Mali et du Niger. et à l'ouest, il y a de ce trafic de drogue, M. Dortigueil. Et c'est dans ce sens qu'il faut interpréter, M. Dortigueil, cette mise en garde du chef d'état-major de l'armée algérienne, n'est-ce pas, M. Dortigueil?
Oui, en effet. Mais justement, à notre avis, une conclusion pratique, une mise en pratique de cet avertissement serait de faire baisser toute occasion de conflit. C'est-à-dire montrer qu'on a une puissance, c'est une chose, mais user de cette puissance pour conduire à l'affaiblissement de son propre pays dans une guerre interminable, celle même que nous avons connue, que rappelons-le, qui a duré pendant 40 ans, à notre avis, conduirait à une paralysie de l'Algérie, comme du Maroc, comme de même que ce que vous avez évoqué, M. Norostin, en Libye. Quel que soit, disons, ce que l'on peut accorder à un ou deux, disons, des gouvernements qui soient soutenus par les uns ou par les autres, parce que je veux dire les uns ou les autres, par telle ou telle puissance, ce qui est dangereux, c'est justement le conflit lui-même. C'est-à-dire, rappelons-le, l'usure du conflit. C'est elle sur laquelle, à long terme, et non pas à court terme, visent justement les puissances étrangères. Alors, on trouve de bons arguments, il y a des arguments toujours possibles, mais il faut comprendre qu'il y a un salut plus général. Je l'appellerais d'un côté un salut maghrébin, voyez-vous, de l'autre côté un salut de toute l'Afrique du Nord. C'est-à-dire y compris la Libye, je me rappelle pour bien, c'est un détail, mais la fameuse union de la Tunisie avec la Libye, qui n'a duré qu'une semaine, je crois, avec M. Masmoudi, autrefois le président Bourguiba, à ce moment-là, il y avait cette volonté d'union, à notre avis, entre les États maghrébins, doit l'emporter sur les querelles locales. Voyez-vous, quels que soient les arguments, c'est la prolongation de la guerre. Ce n'est pas du tout le fait de montrer sa force qui est dangereux, ou de lutter contre le terrorisme. C'est s'abandonner, disons, à une stratégie qui n'est plus la sienne, qui sera nourrie à droite et à gauche par des intervenants, voyez-vous. N'oublions pas que même l'entité sioniste qui est très puissante au Maroc, chacun le sait, avec M. Azoulay, etc., elle a deux bras ou trois bras, comme les dieux indiens, vous savez, elle a plusieurs bras. C'est-à-dire qu'elle touche à tout. Et d'un côté, nous avons la Russie et la Chine, par exemple, qui, bien sûr, aident l'Algérie, mais si vous abandonnez votre propre sort à des soutiens étrangers, à la longue, ce n'est pas l'intérêt national ou l'intérêt, disons, géopolitique de la région qui l'emporte, mais vous êtes toujours soumis, disons, à ceux qui vous aident, à ceux qui prétendent défendre vos intérêts et en réalité ne font qu'exprimer, disons, un partage du monde.
Monsieur Ambrounit, permettez-moi de vous poser également, à vous également, cette question. Faut-il également interpréter ce qui se passe actuellement dans le Sahara occidental, dans son contexte régional également, sur le continent africain, au niveau du continent africain? Parce que quand même, ces derniers temps, il y a eu des informations qui ont été publiées, comme quoi il y a cette volonté également de réactiver ces groupes terroristes sur le continent africain également, et d'embraser, si vous voulez, toute la région. Et vous l'avez dit, il faut chercher une solution négociée pour ce problème du Sahara occidental. Mais pour ce faire, il faut que l'Organisation des Nations Unies joue son rôle. Également, il faut mettre tout en œuvre pour, si vous voulez, en découdre avec ces activités, si vous voulez, dangereuses sur le continent africain également.
Vous savez que la menace terroriste est une menace réelle qui dure depuis une vingtaine d'années dans cette région, et elle est devenue une menace pour l'Europe. Et vous savez que les pays de l'Afrique du Nord, c'est le mur qui protège donc l'Europe et protège le sud de l'Europe contre cette menace vivace et réaliste et réelle. Et on voit que l'armée française, donc elle se bat, elle combat donc au Mali, elle combat au Niger, elle a des forces armées un peu partout, et en fait on prend au sérieux la menace terroriste de ces groupes. Et donc on se trouve que l'Algérie, elle est impliquée dans le sens où ses frontières sont menacées, comme on l'a précisé tout à l'heure, mais aussi le Maroc, précise et veut s'agrandir dans son influence politique et économique sur toute cette Afrique qui bouge, qui monte, qui est l'avenir en fait. L'Afrique, le continent, il faut comprendre que le continent africain aujourd'hui c'est l'avenir de l'Europe. C'est-à-dire sans Afrique, l'Europe sera... Ils seront des pays de troisième ligne, de quatrième ligne, sous-développés par rapport à l'Asie et par rapport donc à la Chine qui monte. Parce que c'est très important de voir la globalité de la géopolitique mondiale. Aujourd'hui, on voit l'affaiblissement des États-Unis, l'allié principal, le protecteur principal de l'Europe. Donc l'affaiblissement des Américains fait que la puissance russe militaire, elle est montée, la puissance économique et donc politique de la Chine, elle est là. Et qui présente un petit peu les Russes ou les Chinois dans cette région, c'est l'Algérie. Donc, même le Maroc essaie de s'ouvrir économiquement vers la Chine et militairement vers la Russie, mais il reste timide. Donc, l'affaire, si vous voulez, du Sahara occidental, c'est une affaire marocaine-algérienne, parce que les deux pays, ils sont capables de trouver la solution. Malheureusement, l'ingérence étrangère européenne et l'ingérence surtout aujourd'hui de quelques pays du Golfe Persique arabe, comme l'Émirat arabe uni ou l'Arabie saoudite, ces pays qui financent les groupes terroristes. Et donc, aujourd'hui, ils essayent de venir, entre parenthèses, en aide au Maroc face à leur ennemi, entre parenthèses, algérien. En fait, ils ne sont pas ennemis, le Maroc, l'Algérie. Et c'est cette ingérence arabe, si vous voulez, qui veut pousser ce conflit à pourrir donc cette relation marocaine-algérienne et permettre donc l'activité de ces groupes terroristes et nuire à l'Algérie. Donc le centre de ce conflit, c'est en fait nuire au Maroc et à l'Algérie tous les deux.
Monsieur d'Ortiguet, très très rapidement, s'il vous plaît, en quelques phrases, en une minute au maximum, selon Monsieur Abrouni, là, il y a toujours en fait l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis qui cherchent, si vous voulez, à jouer un rôle destructeur dans cette affaire également.
Oui, parce que l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis ne représentent pas, disons, des intérêts proprement arabes, mais sont au service, bien sûr, de ceux qu'ils ont créés, entretenus, etc. Et ce sont en fait de faux riches, voyez-vous, dont la fortune, d'ailleurs, ne dépend que de la volonté de la puissance impériale, à commencer par l'Angleterre au départ, et les États-Unis, et d'autres ensuite, qui les flattent, qui les soutiennent. Il faut donc, justement, qu'il y ait, comme on peut dire, c'est mon slogan que je reprendrai, l'Afrique aux Africains d'abord, et non pas du tout à ceux qui prétendent ou les aider ou les diviser, mais qui en réalité, disons, ne font, comment dire, qu'aujourd'hui, reprend la formule, diviser pour régner. En réalité, le choix est entre l'anarchie durable ou au contraire des sacrifices réciproques entre voisins qui sont condamnés à être voisins par la nature, par l'histoire, par la géographie.
Merci infiniment, Monsieur Pierre d'Orsiguier, d'avoir été avec moi pour cette émission depuis Toulouse. Mes vifs remerciements vont également à vous, Monsieur Imadedine Imbrouni, d'avoir été avec moi pour cette émission, je vous en prie, depuis Paris. C'est la fin de cette émission. Merci infiniment de l'avoir suivi. Merci beaucoup pour votre fidélité à Presse TV Français. Je vous souhaite à vous toutes et tous une excellente journée. Je vous dis au revoir, amis. À très bientôt. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission Focus. Le général de brigade Hossein Dehran, conseiller du guide suprême de la révolution islamique, a souligné que l'Iran n'entendra en aucun cas des négociations avec aucune partie au sujet de sa puissance militaire. Ce mercredi 18 novembre, dans une interview accordée à la société de presse, le général Hossein Dehran, ancien ministre iranien de la Défense, a évoqué les prétentions de certains médias occidentaux sur la décision du président américain sortant Donald Trump d'entreprendre une action militaire contre l'Iran. « Nous ne saluons pas la crise.
nous ne sommes pas favorables à la guerre. Nous ne voulons pas déclencher une guerre, mais nous ne cherchons pas non plus à négocier pour négocier, a-t-il précisé. Faisant référence à certains rapports sur les conditions que les États-Unis auraient l'intention de fixer pour les négociations avec l'Iran, le général Dehran a déclaré « La République islamique d'Iran n'entamera en aucune circonstance des négociations avec aucune partie au sujet de sa puissance militaire. Les missiles sont à l'image de l'énorme potentiel de nos professionnels, notre jeunesse et nos centres industriels », a-t-il dit. Au sujet du rapport du New York Times concernant l'intention de Donald Trump de lancer une action militaire contre l'Iran dans les derniers jours de sa présidence, il a affirmé « Un conflit limité et tactique pourrait se transformer en guerre à grande échelle. Il est certain que les États-Unis, la région et le monde ne seront pas en mesure de résister à une crise d'une telle ampleur », a-t-il souligné. Concernant les inspections de l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA, des installations nucléaires iraniennes, le général Dehran a souligné que ces inspections devaient se poursuivre tant que les inspecteurs de l'AIEA ne sont pas des espions. Il a qualifié l'incident du 2 juillet sur le site nucléaire de Natanz de sabotage industriel. Ceux qui étaient en charge de l'installation de certains des appareils sur le site ont probablement fait des changements qui ont conduit à l'explosion, a-t-il précisé. Il a indiqué concernant en fait les accusations d'implication dans l'attentat de Beyrouth en 1983 porté contre sa personne que les États-Unis essaient d'attribuer tout ce qui se passe dans le monde à une personnalité en Iran. Ont-ils vraiment des preuves? Pour quelles raisons est-ce qu'ils cherchent à m'imputer cet attentat? Évoquant les récents désaccords entre certains pays du Golfe Persique et le régime sioniste, il a précisé que l'augmentation de cette présence en Asie de l'Ouest pourrait conduire à une erreur stratégique. L'Iran exige l'expulsion de toutes les troupes américaines de la région en représailles au martyr du général Soleimani, commandant de la force Quds du corps des gardiens de la révolution islamique. Les mains sales de l'Arabie Saoudite dans des attentats terroristes en Iran. Le ministère iranien des renseignements a publié des documents approuvant la relation directe entre le groupuscule terroriste Al-Nizal avec les services de renseignement saoudiens. Farajullah Shahab, le chef du groupe de terroristes Mouvement Arabe de lutte pour la libération d'Ahvaz, a été arrêté le 12 novembre grâce à des opérations spécialisées et combiné du ministère iranien des renseignements. Selon le ministère iranien des renseignements, le chef d'Al-Nizal avait planifié plusieurs opérations de grande envergure à Téhéran dans la province de Khuzestan ces dernières années. Ce communiqué ajoute, malgré l'émission d'un mandat d'arrêt international contre les dirigeants de ce groupuscule, ils ont géré des opérations terroristes en Iran. Le principal auteur de l'attaque terroriste de sanglante du 22 septembre 2018 à Ahvaz, qui est maintenant entre les mains du ministère des Renseignements, a également donné des détails sur d'autres opérations terroristes et sanglantes de ce groupuscule, a-t-il souligné encore. Pour rappel, lors de l'attentat terroriste du 22 septembre 2018, un groupe terroriste armé a attaqué la cérémonie de la semaine de la défense sacrée à Ahvaz, tuant 25 personnes et blessant 68 personnes, dont des femmes et des enfants. Le G77 réclame la suspension des sanctions US contre l'Iran. Le groupe 77 des pays en voie de développement et la Chine ont réclamé l'élimination au plus vite des sanctions américaines unilatérales contre l'Iran. Au cours de leur 44e réunion de réaliser vendredi le 13 novembre par vidéoconférence autour de la situation économique mondiale, des conséquences de la pandémie du COVID-19 et de défis sociaux, économiques et sur l'environnement dans les pays en voie de développement. Le ministre des Affaires étrangères de ce groupe ont fait part de leur rejet de ces sanctions qui ont des séquelles sur le développement et le bien-être des Iraniens. Il faut au plus vite les suspendre, ont-ils affirmé dans un communiqué, réitérant leur soutien à l'accord nucléaire conclu en 2015 et qui est, selon le texte, l'exemple parfait pour accélérer l'opération de développement continu et renforcer la collaboration internationale. Le président sortant américain Donald Trump a retiré son pays de cet accord en 2019 et a imposé à l'Iran des sanctions en fait injustes. Durant la rencontre, le représentant d'Iran, Ali Haji Larry, a répliqué aux propos de l'ambassadeur saoudien qui a protesté contre l'évocation de l'accord nucléaire dans le communiqué final au motif qu'il a été un échec. Je suis surpris par les propos de l'ambassadeur saoudien qui a prétendu que le paragraphe en lien avec l'accord nucléaire a été inclus dans le communiqué final sous la pression de l'Iran alors qu'il était présent et n'a exprimé aucune opposition au début, a souligné le représentant iranien. Et de poursuivre, le fait de dire que le sujet de l'accord nucléaire n'avait rien à voir avec le communiqué des ministres des Affaires étrangères du groupe est une insulte à leur encontre. Pensez-vous que de 140 ministres des Affaires étrangères se sont trompés en incluant ce sujet dans leur communiqué et seule l'Arabie saoudite a pu voir cette erreur, a répliqué dans ces termes le représentant iranien à cette déclaration, cette prise de position de l'ambassadeur des Saoudiens. La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a affirmé que les jeux des États-Unis pourront entraver la conférence pour le retour des réfugiés syriens qui a eu lieu la semaine dernière à Damas sont échoués. Maria Zakharova a indiqué dans un point de presse que Washington et l'Union européenne avaient exercé des pressions sur des pays et des organisations internationales pour les empêcher de participer à la conférence précitée. Elle a estimé que les critiques américaines de la conférence qui s'est tenue les 11 et 12 novembre en cours font suite à la politique adoptée par Washington pour entraver le retour des réfugiés syriens à leur pays. Elle a de même indiqué que les Américains ne se limitaient pas à ne pas aider les Syriens à retourner dans leur pays, mais ils entravent leurs efforts pour retourner et privent de ceux qui pensent retourner des aides financières qui arrivent seulement à ceux qui se trouvent hors de la Syrie pour les encourager à rester là-bas, a précisé Maria Zakharova. Les populations méditerranéennes en danger, selon un rapport alarmiste sur l'environnement. En Méditerranée, les dégâts sur l'environnement menacent les populations, notamment en mettant en péril leur santé et moyens de subsistance, indique un récent rapport sur le changement climatique. Le bassin méditerranéen est particulièrement vulnérable au réchauffement climatique et risque des dommages mettant en danger la santé et les moyens de subsistance des populations selon un rapport présenté le 19 novembre. L'avenir de la Méditerranée est à un point de bascule, a souligné lors de la présentation du rapport sur l'état de l'environnement et du développement en Méditerranée de François Garkamp, directeur de Plan Bleu, un organisme travaillant au sein du programme de l'ONU pour l'environnement et du plan d'action pour la Méditerranée. L'exploitation des ressources et des organismes, la pollution et le changement climatique devraient exacerber les fragilités préexistantes et mettant en danger la santé et les moyens de subsistance selon le rapport dont la précédente version remonte à 2009. Ici s'achève cette émission. Merci infiniment de l'avoir suivi. Merci beaucoup pour votre fidélité à la radio francophone iranienne. Eh bien, on va se retrouver la semaine prochaine, plus précisément samedi prochain, pour une autre émission Focus. Thank you.